Alors, à chaque fois, il se réfère à son oncle célébrissime, Freud. Il se réfère aussi aux travaux de certains Gustave Le Bon, etc. Tous ceux qui s'étaient intéressés aussi à la psychologie des foules.
Tout à fait. Ça, c'est central dans le travail de Bernays. Au sortir de la commission Creel, on y reviendra tout à l'heure, là, il va lancer les relations publiques. Il va quitter le domaine de la simple publicité pour créer l'idée et la pratique des relations publiques. Mais tu as tout à fait raison de souligner que Freud est constamment présent dans sa pensée et un certain nombre de théoriciens des sciences sociales sur lesquels il s'appuie. Alors, Bernays est original en ce sens-là. D'abord, il demande aux sciences sociales de lui fournir des techniques, des manières de faire, une théorie, de la réflexion. Et surtout, il trouve chez les gens auxquels il fait référence des justifications de sa pratique en ce sens que la masse des gens est incapable de penser. La masse des gens ne peut pas s'élever au niveau de discussion rationnelle nécessaire dans une démocratie comme celle qu'il connaît aux États-Unis, de telle manière qu'il revient à la minorité intelligente de façonner les consentements, de cristalliser l'opinion publique, puisque la masse des gens est dominée par, en termes freudiens, c'est le ça qui domine, ils sont incapables de s'élever au niveau de la réflexion.
Mais ça, ça domine toujours dans les esprits, c'est un non-dit, c'est des mots qu'on n'emploie pas, élite, etc. Mais enfin, c'est quand même toujours dans les esprits aujourd'hui.
Tout à fait. Je pense que c'est un courant qui est extrêmement fort et extrêmement puissant dans les institutions dominantes. Je crois que ça reste avec nous. Ce qui est fascinant chez Bernays, et c'est l'intérêt de cet ouvrage qu'il fait paraître en 1928, c'est que lui dit ces choses-là de manière tout à fait honnête. C'est-à-dire, dans le livre, vous allez le voir, il explique que c'est une minorité intelligente qui doit dominer, elle doit instituer une sorte de gouvernement invisible où elle manipule la masse qui est incapable de penser. Et c'est important de voir aussi comment tout cela, qui est bien réel, hein, le biographe de Bernays disait en 1998, je vais lui faire confiance pour citer ses sources, qu'aux États-Unis, en 1998, il y avait 125 000 personnes travaillant dans l'industrie des relations publiques. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important là, qui est devant nous. Et l'idée qui fonde ce type de pratique sociale-là, elle est complètement opposée à celle du véritable projet démocratique issu du siècle des Lumières. Elle est complètement opposée à ce que Kant réclamait quand il disait qu'il faut un espace public de libre discussion où les gens puissent librement échanger des idées, se placer du point de vue de la raison et de l'universel, justifier devant les autres les affirmations et les conclusions auxquelles ils parviennent, rendre disponible l'ensemble des faits permettant de discuter. Alors, on est à milieu de ça, comme on est à milieu de ce cher Condorcet qui réclamait une instruction publique accessible à tous, permettant de fonder la démocratie. On est ici dans l'idée qu'une minorité intelligente sait. Évidemment, cette minorité intelligente, elle est au service de ceux qui ont les moyens de se payer leur travail, de ceux qui vont avoir les moyens de se payer, les industries de relations publiques et leur expertise. La vérité ou la conclusion plutôt à laquelle les gens vont arriver est déterminée par avance par ces gens-là. Tout ça est extrêmement dramatique si on prend au sérieux un projet démocratique réel.
C'est une masse exécrable d'unités glutineuses qui s'empiètent dans les parcours, se faufilent entre leurs semblables comme des vers visqueux, dans un mélange de sueur et de parfums bon marché. Présence d'un trop-plein de vie, mais qui transpire un arôme de mort, une ambiance de zombie, et ça s'étend et ça s'accorde. Ça se dissout dans son propre moule, c'est ce qui s'appelle la foule. Les fouliens font acte de présence, lourde présence, pourtant ils ne participent jamais vraiment. On participe seul, et j'accuse la foule de ne pas être un élément. Les fouliens sont bavards, mais leur bruit, leur vent, leur tempête ne dit jamais rien. Brouillard de mots qui dans ce désordre ne manifeste que du vide sous un air de trop-plein. Les fouliens se croisent, se frôlent, se touchent, mais ne se mêlent pas. Rapprochés, oui, si bien rapprochés, mais de par l'esprit étroit de chacun pour soi. Les fouliens. Les fouliens sont habiles pour la fluidité, la vitesse, la fuite et l'esquive. Toujours en mouvement, mais pour fuir sans cesse une civilité oppressive. Les fouliens ne combattent pas pour leur liberté. Non, c'est l'individu qui combat pour ça. Une foule, ce n'est déjà plus qu'une foule. Mais passons. De toute façon, le foulien ne connaît pas la honte, non. La honte appartient à l'intimité, pas à l'escadron. Alors le foulien, lui, se complaît dans la masse, dans l'escadron, car il y est en nombre, et le nombre a toujours raison.
Alors, après la Première Guerre mondiale, notre Bernays crée son bureau de relations publiques. C'est lui qui forge l'expression.
Tout à fait.
Relations publiques.
Il forge cette expression-là. Il se donne d'abord, en sortant de